Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux avec Marilyn de pouvoir vivre ces temps avec vous, au milieu de vous. Et nous nous réjouissons aussi beaucoup de revoir nos amis que nous connaissons de longue date aussi. Et puis aussi de rencontrer de nouvelles personnes et l'œuvre que le Seigneur fait ici, dans cette région à Quévin. Je n'étais pas là à l'origine, mais je connais un peu l'histoire et je me réjouis beaucoup de ce que le Seigneur a fait depuis toutes ces années ici dans cette région. Et je connais les pionniers, en quelque sorte, qui ont travaillé avec ardeur, fidélité, et je me réjouis beaucoup de ce que leur travail a produit un fruit merveilleux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remettre ce moment dans les mains du Seigneur parce que je considère que c'est sa grâce dont j'ai besoin et dont nous avons besoin pour recevoir non pas une parole quelconque, mais une parole qui vient de Dieu, une parole vivante, ce qui nous est transmis de sa part pour nous nourrir et pour nous aider à vivre aujourd'hui et demain. Seigneur Jésus, tu es notre source, tu es le commencement et la fin, tu es tout. En toi, nous avons tout et nous sommes totalement dépendants de toi. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi pour que cette parole puisse être une parole vivante qui nourrit ton peuple. Amen. Alors vous savez que nous vivons ce week-end une fête qui s'appelle la fête de Pentecôte et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter ici à Quévin? Est-ce que je dois suivre le calendrier et puis me dire, c'est Pentecôte, il faut parler de Pentecôte? Est-ce que c'est ça l'inspiration? Et puis en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est bon d'aborder? Mais je ne savais pas trop comment l'aborder, parce que il me semble, en tout cas, dans ce que je peux percevoir dans l'Église, Pentecôte, ça signifie, acte 2, bien sûr, hein, où le Saint-Esprit descend sur les disciples, et puis là, il y a une transformation, une effusion de l'Esprit qui amène un Pierre qui était un peu replié sur lui-même à porter un message magnifique. Et ce jour-là, 3000 personnes s'ajoutent à l'Église. Et puis on voit une Église presque parfaite dans les tout débuts où chacun vendait ce qu'il avait, mettait en commun. Et là, on a une Église de rêve. Il semble qu'il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Et quelque part, j'ai parfois le sentiment dans l'Église où autour de nous, dans l'ambiance évangélique, qu'on est toujours un peu plus ou moins à la recherche de cet état de Pentecôte où on aimerait tellement que cette effusion de l'esprit nous amène à vivre quelque chose d'idyllique, quelque chose de merveilleux. Et je ne dis pas que c'est faux, sauf que lorsqu'on continue un peu la lecture et qu'on poursuit avec les épîtres, eh bien on se rend compte que ce temps-là n'a pas duré jusqu'à encore aujourd'hui. C'était un temps spécifique et il a fallu se maintenir. Et l'apôtre Paul a dû faire face à bien des difficultés, pas seulement lui, dans le monde dans lequel l'Église était implantée et s'implantait, mais également au sein du peuple de Dieu lui-même qui était les Juifs. La fête de Pentecôte, c'est une fête qui tire son origine dans l'Ancien Testament et qui s'appelle Shavuot, qui signifie la fête des récoltes, la fête de la moisson. Cette fête de Pentecôte, qui signifie 50, est en fait 7 semaines, 7 fois 7, 49, plus 1, 50, les 7 semaines qui séparent Pâques de Pentecôte et qui sont un temps spécifique où, avant Pâques, les agriculteurs, si je puis dire ainsi, avaient travaillé la terre, préparé la terre, nettoyer la terre. Et on avait passé un temps dans la transpiration, les yeux fixés vers le sol, vers cette terre nourricière, pour la rendre favorable à recevoir une semence. Alors, cette période des sept semaines était aussi pas seulement par rapport aux céréales, c'était aussi des arbres fruitiers, enfin l'ensemble des éléments de vie qui étaient nécessaires pour le peuple. Après avoir travaillé ardemment et durement, eh bien, une fois qu'on avait fait tout ce qui était à faire et qui revenait à la main de l'homme, eh bien, on se relevait, et là, on ne pouvait plus rien faire. On n'avait plus la main, si je puis dire, on n'avait plus le contrôle sur quoi que ce soit, et on dépendait du ciel. Alors, on passait d'un temps où on était tête baissée à un temps où on relevait la tête vers le ciel, parce que à ce moment-là, il faut qu'il y ait, en tout cas en Israël, une conjugaison météorologique favorable pour que la croissance et la récolte soient abondantes et de qualité. Il fallait qu'il y ait un vent du nord qui apportait la pluie, les orages, quelque chose de fort, et puis que cela soit conjugué avec un vent du sud qui apportait la chaleur. Bon, c'est un peu comme chez nous, en Normandie et en Bretagne, un peu différemment. Nous, il y a toujours les bonnes conditions. Enfin, là, je vais marcher sur le timon, comme on dit en Suisse, parce qu'il n'y a pas toujours les bonnes conditions. Mais enfin, il y a des conditions d'humidité. Enfin, bon, on est quand même mieux lotis que certaines autres régions par rapport à ça. Cette fête, c'est un aboutissement d'un temps d'attente, et même d'un temps d'angoisse, parce qu'on se demande et on espère que la météo sera au rendez-vous. Et le peuple d'Israël relevait la tête non seulement pour regarder les nuages éventuels et les vents, mais se tournait vers Dieu, parce que c'est lui le Créateur, c'est lui qui avait, et qui a toujours d'ailleurs en sa possession la maîtrise de tous les éléments, pour favoriser la bonne croissance du travail effectué et de la semence. Et le jour de la Pentecôte, c'était la fête, parce que on pouvait savoir, si tout s'était bien passé, qu'on allait pouvoir avoir du pain pour l'année qui vient. Et ainsi de suite, on recommençait. La fête de la Pentecôte, que nous trouvons également, enfin, dont je parlais dans l'Ancien Testament, dans Exode 20, verset 18, c'est aussi la fête de la Torah. C'est-à-dire de ce qui vient du ciel, qui est la parole de Dieu, qui est donnée à Moïse et au peuple, par conséquent, bien sûr. Cette fête de la Nouvelle Alliance signifiait que Dieu donner du ciel ce qui était nécessaire, les commandements, à la vie de l'âme. Alors, il y a un parallèle entre la terre, le corps, et puis l'âme. Cette fête, elle est à la fois pour le peuple d'Israël dans sa dimension terrestre, mais aussi pour l'Église et pour le peuple de Dieu dans sa dimension spirituelle. Il nous est dit, dans Exode 20, au verset 18, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. » Et après, ils vont dire à Moïse, « Que le Seigneur te parle à toi, nous, on va plutôt se tenir à distance, parce que là, ils ont été extrêmement impressionnés. » Et je me permets de faire tout de suite un parallèle avec Actes 2, verset 1, où il nous est dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà un spectacle, d'un côté, de la manifestation de Dieu dans sa puissance, dans le fait qu'il fait trembler, mais on y voit aussi ces flammes de feu, ces tonnerres, mais qui, au fond, accompagnent ce qui vient du ciel, qui amène la bénédiction, et cela est quelque chose d'impressionnant. Et quand on est à la Pentecôte, eh bien, on retrouve ce vent violent, on retrouve ces flammes de feu, on retrouve un petit peu toute cette action du Seigneur, la terre tremble, et Dieu répand l'Esprit. Nous aimerions vivre cela peut-être d'une façon permanente. Et peut-être que je me permets de soupçonner chez nous, et pas ici, mais peut-être chez moi, que ce serait quand même beaucoup plus facile si c'était Pentecôte tous les jours. Si on pouvait seulement recevoir l'Esprit, l'effusion de l'Esprit avec toute la joie, tout ce que cela signifie, et puis les miracles, et puis tout un fruit qui ferait que, on n'aurait plus à souffrir. Mais voilà que lorsque l'agriculteur pose sa semence en terre, celle-ci va souffrir. Il est plus facile pour un grain de blé de rester sur quelque chose comme une table que d'être planté en terre, parce que à ce moment-là, il va y avoir un phénomène qui va se produire avec l'humidité, avec les sels minéraux, où l'enveloppe, ce qui entoure le grain de blé et ce qu'il contient, à savoir la partie racine et la partie tige, eh bien, si cette écorce, si cette enveloppe n'est pas dissoute au contact de l'humidité de la terre, eh bien, il ne peut pas être libéré, ce grain de blé, pour pouvoir s'ancrer dans le sol et s'élever vers le ciel pour recevoir les bénéfices de la lumière, du soleil, de la chaleur, de la pluie. Et parfois, mes amis, je le crois, le Seigneur nous invite encore dans notre vie à être des planteurs, à être des semeurs. Nous avons encore des pertes à vivre. Il serait plus confortable de garder ce que nous avons. Il serait parfois plus confortable de rester dans une situation dite confortable, dans une zone de confort, un peu à l'écart. Mais si nous ne sommes pas dans ce processus de perte, dans ce processus de mort, on ne peut pas non plus connaître le processus de vie. Et c'est pas facile de mourir. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On va de toute façon un jour mourir. Enfin, ce corps, en tout cas, ce corps n'ira pas dans l'éternité. Il sera transformé à l'image de Christ. Mais il est nécessaire de garder en ligne de mire que nous ne sommes pas arrivés et que nous avons encore à vivre des pertes, certes, mais des pertes qui ne sont pas des pertes pour perdre, mais des pertes qui vont porter un fruit, qui vont et qui ont un processus à vivre. Et je crois que nous, les évangéliques, en général, nous sommes quand même très demandeurs que les choses soient dans l'instantané, que les choses soient maintenant. On aimerait que si on prie pour un malade, il soit guéri tout de suite. On aimerait que si on prie pour qu'il y ait quelque chose qui se produise, c'est tout de suite. Mais la Pentecôte, c'est vrai, est une fête d'une récolte de quelque chose de particulier qui se passe pendant un temps. Comme la conquête du pays de Canaan a été rapide, quelque chose où tout est facile. Et c'est vrai qu'il y a des temps dans nos vies où on a le sentiment qu'on récolte, que c'est facile, qu'on est heureux, et on aimerait tellement rester dans cette dynamique-là. Mais voilà que le Seigneur ne va pas toujours permettre que ce soit facile. Mais il va aussi permettre que nous vivions des temps de réjouissance, des temps de joie, des temps où nous pouvons toucher le fruit de notre travail, nous pouvons toucher le fruit de notre espérance, de notre attente, parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous donnera. Alors le peuple d'Israël, lui, non seulement sa récolte dépendait de la météo, mais aussi de sa façon de vivre avec le Seigneur, parce que la météo dépendait aussi quelque part de ce peuple d'Israël. Si tu obéis, si tu te comportes conformément aux attentes, eh bien, il y aura la bénédiction. Et on voit ça dans Deutéronome 28, la bénédiction sur les terres, sur les récoltes, était aussi liée à la façon dont le peuple était en capacité ou choisissait d'obéir au commandement. Et s'il désobéissait, eh bien, il se mettait dans une situation qui les plaçait hors de la bénédiction. Alors, ce n'est pas que Dieu voulait punir, c'est que Dieu plaçait les choses devant eux, un peu comme il le dit aussi, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». C'est pas forcément le bâton pour battre que tendait Dieu. Mais il fallait que le peuple voie chaque fois qu'il se détournait de Dieu, que finalement ses récoltes mauvaises étaient aussi le fruit de son comportement mauvais. Et cela devait le ramener au Seigneur. C'était une grâce. Alors, parfois, mes amis, je crois que l'Église doit aussi prendre enseignement de ce que le peuple d'Israël a vécu, de ce que l'histoire de l'Église nous enseigne. Et parfois aussi, eh bien, il faut accepter que nous pouvons vivre des temps qui nous semblent longs, des temps un peu angoissants où il semble que rien ne se passe. On ne voit rien. Lorsque le grain de blé est en terre, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on se doute un peu qu'il y a un processus. La semaine dernière, enfin non, il y a une quinzaine de jours à la maison, nous avons planté des haricots. Pas un haricot n'a germé, pas un haricot ne s'est élevé vers le ciel. Bon, on s'est rassuré parce que les voisins, c'était la même chose. Il semble bien que la météo n'était pas au rendez-vous, il faut recommencer. Mais néanmoins, lorsque le blé est en terre, le grain de blé est en terre, il y a ce phénomène, ce processus qui est déjà en route et qu'on ne voit pas encore. Et puis, on va commencer à voir venir les épis, alors pas les épis, mais les brins, qui ressemblent plutôt à de l'herbe. En fait, au départ, le blé ne ressemble pas à du blé, il ressemble plus à une herbe, quelque chose de neutre, quelque chose qui ne porte rien, quelque chose qui est là, qui occupe de la place, du terrain, mais qui n'apporte rien. Il va falloir attendre jusqu'à la dernière minute, si je puis dire, la dernière phase, que le grain de blé, finalement, l'épi, porte 30, 60, 90 grains supplémentaires, parce qu'il sera au terme de sa croissance, au terme de sa maturité. Et la récolte, ça va très vite. Mais croître, ça prend du temps. Et ce matin, Jean-Marc nous disait, arrêtons de rêver notre vie, vivons notre vie. N'attendons pas la Pentecôte pour vivre. Vivons ce que nous avons à vivre dans le processus dans lequel nous sommes. Qui est un processus de perte, certes, mais qui est aussi un processus de résurrection, un processus de vie. Et quand nous vivons des pertes, quand nous vivons des difficultés, eh bien, il nous faut savoir, il nous faut nous rappeler que derrière, le Seigneur est dans une œuvre qui ne se voit pas toujours, dont on ne voit pas les fruits. Il se passe des choses, certes, mais rien qui soit très significatif, jusqu'à ce qu'on commence à percevoir que la moisson arrive et que là, quelque part, on revit, et puis on fait la fête, on est heureux, parce qu'on récolte. Peut-être que c'est aussi le temps pour nous de faire le point sur ce que nous gardons précieusement, sur ce que nous ne sommes pas prêts à planter en terre, c'est-à-dire à déposer devant le Seigneur pour que lui puisse œuvrer pour que ce que nous lui donnons porte un fruit. Je crois que nous sommes... C'est difficile de mourir, je le disais, mais nous sommes vraiment par notre vieille nature, dans un désir de retenir ce que nous croyons être nos richesses. Nous nous accrochons à des choses que nous pensons être nos sécurités, que nous pensons être ce qui va nous permettre de rester tranquille et d'avoir une forme de sécurité. Alors qu'en réalité... Notre sécurité, elle est dans le fait d'ouvrir notre main et d'accepter que nous n'allons plus maîtriser ce que nous croyons être notre bien. Et un grain de blé, c'est un bien, mais 100 grains de blé, c'est 100 fois plus de bien, n'est-ce pas ? Et si nous acceptons de regarder le processus dans lequel le Seigneur nous invite à vivre comme quelque chose qui est... difficile au départ, mais qui va nous conduire vers quelque chose de meilleur, alors c'est plus facile d'ouvrir la main et de lâcher. Non pas qu'on soit dans un calcul comptable en disant, tiens, je vais donner un grain de blé au Seigneur, ou un euro au Seigneur, il va m'en redonner 10 derrière, ou 100. On n'est pas dans cet évangile dit de la prospérité, bien sûr, mais dans la confiance que ce que nous offrons au Seigneur, il sait le faire fructifier. Attendre ne nécessite pas ou n'implique pas forcément la solitude. Acte 1, 14 nous est dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Il y a eu des temps d'attente pour ces disciples où ils ont mis à profit ces temps-là pour se retrouver entre eux. Ils ont mis ces temps-là pour prier, se tourner ensemble vers le Seigneur, à la manière dont je vous parlais tout à l'heure. Le Seigneur a dit d'attendre, on attend et on se tourne vers toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux nous donner ? Qu'est-ce que nous devons recevoir de toi ? Et finalement, quand le Saint-Esprit descend, c'est semblable à ce pain de vie qui descend. Jésus est venu du ciel en chair. Il a vécu en simple homme, mais il était... Dieu, et il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Et dans cette vie, c'est le pain de Dieu venu du ciel. Et lorsque nous partageons le repas du Seigneur, c'est cela aussi que nous commémorons. Alors, Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, pour nous parfois, c'est la solution. Ce serait tellement merveilleux que ce soit toujours la solution. Bon, là, je me répète un peu, mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Et ce n'est pas seulement l'idée qu'on va vivre quelque chose de plus facile. C'est l'idée que Dieu vient habiter en nous avec ce qu'il est, avec la nature de Dieu. Ce n'est pas seulement les dons du Saint-Esprit, les miracles... qui accompagne, c'est aussi le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui vient habiter en nous, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, c'est la douceur, la maîtrise de soi. En fait, toute cette nature de Dieu que nous sommes appelés à recevoir avec l'effusion de l'esprit, comme un processus qui va produire un fruit toujours plus abondant, toujours dans un processus qui va nous conduire à être toujours plus comme Jésus. Et je crois que c'est important que nous ne confondions pas Pentecôte avec des succès spirituels et le processus qui consiste à ce que Dieu fait de nous ce qu'il veut que nous soyons, et non pas que nous fassions uniquement ce qu'il veut que nous fassions. On n'est pas dans le faire quand on est dans l'effusion de l'esprit uniquement. On est dans tout ce que Dieu a comme projet pour nous. Tout à l'heure, Jean-Marc aussi a lu un texte en disant « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Je vous disais, l'effusion de l'esprit, c'est recevoir Dieu dans nos vies, Dieu dans nos cœurs. Et Dieu nous fait la grâce de venir habiter. Comme Jésus est venu naître dans une étable, il n'y avait pas de place pour lui dans l'autel. Est-ce que notre cœur est plutôt étable ou est-ce qu'il est plutôt autel? Parce que Jésus viendra dans ton étable. Et il viendra pour y vivre, pour y naître, il n'y est pas resté. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de place dans ton cœur pour lui, eh bien, si tu préfères l'autel, effectivement, c'est un choix qui est possible. Pentecôte, mais 50 ans, c'est aussi le jubilé. Au sein du peuple d'Israël, le jubilé consistait à remettre tous les 50 ans les compteurs à zéro sur le plan social. Ceux qui étaient pauvres pouvaient alors bénéficier d'une nouvelle chance. Ceux qui avaient perdu leurs biens parce qu'ils avaient mal géré pouvaient prétendre à un redémarrage tous les 50 ans, hein. Alors si vous aviez fait mauvaise fortune à 15-20 ans, vous aviez une chance 50 ans plus tard de pouvoir redémarrer quelque chose. Et si vous tombiez sur le moment du jubilé, bon, c'était ainsi. Mais le jubilé annonçait un temps nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui faisait qu'on pouvait... On pouvait envisager l'avenir différemment, avec un nouvel espoir. Et l'effusion de l'esprit, c'est aussi ça. C'est quelque chose de nouveau que Dieu nous propose, à nous les hommes. Et ce temps nouveau est aussi le temps de la grâce. Un temps où nous allons vivre notre relation à Dieu, à notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, différemment. La grâce, c'est quelque chose qui est tellement grand, tellement beau, tellement magnifique, qu'il est impossible de la définir. En réalité, on pourrait l'appeler Jésus. Elle est semblable à un cours d'eau qui prend sa source dans les montagnes et qui va se déverser dans tous les interstices de la terre, partout, arroser les plaines, descendre dans les profondeurs de la terre. Et c'est la même chose pour nous. Nous recevons de Dieu cette effusion de l'esprit, et c'est tout notre être qui doit être imprégné de cet esprit de Dieu, de cette grâce de Dieu qui nous invite à vivre autrement dans un monde qui n'est pas marqué, qui ne manifeste pas la grâce. Nous vivons dans un monde de disgrâce. Dans ce monde, mes amis, je le crois, il n'y a pas de place pour les perdants. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont pas intéressants. Tu es valable tant que tu peux rapporter quelque chose d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Tu es valable si tu te conformes à ces modes de vie. Tu es valable tant que tu réussis. Ton identité ne repose pas sur ce que toi tu es, mais sur ce que le monde veut que tu sois. On vit dans une espèce de, enfin, dans un esclavage qui nous amène à entrer dans un moule, à nous formater d'une manière. Il faut répondre à des exigences. J'entendais une célébrité dire un jour au sujet des médias. Au début, c'est le léchage. Après, c'est le lâchage. Et après, c'est le lynchage. Au début, quand vous êtes intéressant, on vous lèche. Hein, enfin, vous êtes la star, vous êtes je ne sais quoi. Et puis, après, quand ça ne va plus, on vous lâche. On ne vous connaît presque plus. Et puis, on va même peut-être vous lyncher. C'est M. Tapie qui disait ça, d'ailleurs. Dans ce monde, mes amis, tu es selon ce que tu réussis, par tes propres forces, par tes propres compétences. C'est la performance qui nous définit. C'est notre capacité à prouver, à justifier qu'on est légitime, qu'on est méritant. Et je crois que nous avons à apprendre, mes amis, à vivre autrement tous les jours, et que la Pentecôte, c'est aussi ça. C'est la façon dont le Seigneur nous invite à vivre différemment. Et c'est en cela que nous serons aussi témoins du Seigneur. Pas seulement parce que nous allons vivre des miracles, mais parce que nous allons être et parce que nous allons vivre la vie du quotidien avec son lot de joie, son lot de souffrance, avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur qui est autant avec nous lorsque nous sommes sur les sommets que lorsque nous sommes dans la vallée sombre du psaume 23. Tu es avec moi. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et là, mes amis, je crois que ce n'est pas parce qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas que Dieu est là. Il est là. Il est là. Parce qu'il l'a promis. Et notre identité ne va pas résider sur ce que les autres disent ce que je suis. Ce ne sont pas les autres qui vont déterminer qui je suis. Comme pour Jésus, lorsqu'il passe par les eaux du baptême, qu'il sort et que l'Esprit vient sur lui, sous la forme d'une colombe, il y a là une voix qui est celle du Père et qui dit « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé ». Jésus le savait depuis longtemps. À 12 ans, il dit à ses parents qui le cherchent, il dit ben, « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il sait qui est son père. Mais c'est presque plus pour ceux qui sont là que les choses sont dites. Mais en tout cas, c'est important que nous sachions que ce que nous sommes, ce qui nous sommes, c'est Dieu qui le déclare. Et ce qu'il a dit à Jésus, il le dit à chacun d'entre nous. Si nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des fils bien-aimés de Dieu. Et je sais à combien c'est compliqué de ne pas être impacté par le regard des autres, par le fait de ne pas chercher à plaire aux autres. Ce matin, par exemple, je me dis, est-ce que je vais bien prêcher pour que les gens aient un bon regard sur moi ? Oui, je l'ai pensé. Tu verras ça après, merci. Bon, si c'est pas terrible, tu viens pas me le dire, comme ça je le saurai. Mais c'est vrai, on est quand même sensible à ce que l'autre va dire, à ce que l'autre va penser. Et cela nous formate aussi, enfin, cela nous conditionne quelque part. Et il nous faut apprendre à nous affranchir de cela pour être comme Jésus. Vivre dans la grâce, vivre dans le fait que celui qui nous dit qui nous sommes, c'est le Père. C'est ça la Pentecôte aussi, je crois profondément. Je crois profondément que c'est ça la réalité. Le Seigneur vient parce qu'il a des projets pour nous. La Pentecôte est là, c'est vrai, pour nous remplir de cette vie nécessaire, pour nous féconder quelque part, mais pour vivre un processus de vie, un processus de vie qui va être soumis à la souffrance, comme le grain de blé soumis à la souffrance de la perte, de la météo, des épreuves du temps, etc. Nous n'allons pas vivre cette vie sur cette terre d'une façon à la rêver pour qu'elle soit idyllique. Nous avons à vivre aujourd'hui ce que nous avons à vivre pleinement. Là, maintenant. La grâce, mes amis, c'est le fait que Le Seigneur aime nous apprendre à vivre par la foi. Vous connaissez la parabole des ouvriers de la 11e heure. Si vous ne la connaissez pas bien, vous pourrez la relire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Il nous est dit que un propriétaire d'une vigne sort à la 6e heure, à la 9e heure, à midi, et puis jusqu'à la 11e heure, comme cela. Et puis il cherche des ouvriers pour envoyer dans sa vigne. Les premiers, à 6 heures du matin, le contrat est signé. Il y a un denier, ce qui vaut un salaire journalier à l'époque. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ceux qui sont à la 11e heure, c'est-à-dire ils vont travailler une heure. Et là, le Seigneur, le maître de la vigne, leur dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est convenable. » Et ils y vont. Combien peut-être diraient, « Mais qu'est-ce que je vais aller faire une heure dans la vigne ?» Pour gagner quoi? 2 francs 6 sous, 3 francs 6 sous, je ne sais quoi. Et puis d'abord, il ne nous a pas dit ce qu'on allait recevoir. Et puis s'il ne nous donne rien, il nous aura exploité, parce qu'il n'a rien dit. Et quand l'heure du salaire approche, le Seigneur dit à son intendant, donne à chacun ce qui est juste, et commence par les ouvriers de la dernière heure. Et ils reçoivent un denier. Comme les autres. Ben dans notre monde, ça, mes amis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une usine à feignants pour nous. C'est vrai. On récompense celui qui a travaillé le plus. Et puis, quelque part, on est un peu dérangé avec ça, non? Ouais, c'est un peu injuste quand même. C'est pas normal. Bon, c'est une parabole, mes amis. Mais ce que je crois qu'elle nous enseigne entre autres, c'est que le Seigneur n'honore pas des contrats. Il honore la foi. Il a donné ce qui était dû à ce qu'il avait convenu avec les premiers et qui sont allés pour un denier. Mais les derniers, il les a honorés parce qu'ils lui ont fait confiance sur ce qu'ils allaient recevoir. Et c'est ça qu'il honore, le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut honorer le Seigneur. On ne peut pas vivre dans le calcul que si je fais ceci, si je fais cela, je vais recevoir ceci, je vais recevoir cela. On lui fait confiance. Et il est bon. Et verrais-tu d'un œil mauvais que je sois bon, dit-il. Le Seigneur honore la foi. Il n'honore pas les contrats. Je ne voudrais pas trop insister, mais Job a vécu cela. Je crois profondément. Lorsque Job vivait avec le Seigneur, quelque part, il avait rédigé des contrats. Dans le sens où, dans Job, chapitre 1er, verset 9, le diable dit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job te sert? Est-ce qu'il n'est pas quelque part un peu intéressé ?» Ben oui, tu le protèges. C'est facile de te servir. Tout va bien pour lui. Il est riche, il s'occupe des pauvres, il fait tout bien. Et puis le Seigneur le dit d'ailleurs. T'as vu mon serviteur Job, il est comme ça. Hein. Et puis le diable lui dit, tu l'as entouré d'une haie. C'est-à-dire tu as mis autour de lui tout ce qu'il faut pour qu'il soit pépère, tranquille. Et Job fait tout ce qu'il faut pour entretenir sa part de la haie. Il offre des sacrifices de culpabilité pour ses fils quand ils font la fête, etc. Et quand tout s'écroule, quand il perd tout, mais Job, il est complètement abasourdi. Et il y a de quoi l'être, parce que franchement, ce qu'il vit, on ne le souhaite à personne. Mais il perd ses enfants, il perd ses serviteurs, il perd ses troupeaux, ses richesses, il perd tout. Et jusqu'à sa santé. Et là, il veut en découdre avec Dieu. Oui, tu te rends compte? J'ai tout fait comme il fallait. Moi, j'ai répondu au contrat. J'ai fait comme il fallait. Si je ne me suis pas occupé des veuves, alors dis-moi-le, montre-moi. Mais pourquoi je vis ça? Et derrière tout cela, on voit une profonde injustice d'un homme qui subit quelque chose qu'il ne mérite pas. Il récolte le fruit de quelque chose qu'il n'a pas semé. Mais en réalité, derrière, et là, il faudrait beaucoup plus de temps, bien sûr, mais derrière, Dieu se tait. Et il est bon que Job parle. Il y a ses amis qui sont à côté, qui parfois ont des discours logiques. C'est bien parce que tu as fait quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, si vous êtes malade, mes amis, c'est parce que vous avez fait des choses qui ne sont pas... C'est de votre faute. C'est un peu ça, le discours. Et parfois, c'est triste d'entendre que si vous êtes malade, c'est parce que vous n'êtes pas dans les clous. C'est pas juste de dire ça. C'est pas juste. Parce que le Seigneur, pour Job, il permet quelque chose parce qu'il veut emmener Job bien plus loin dans sa relation avec lui. Dieu veut une relation qui ne soit pas basée sur « je te dois, tu me dois ». Il veut une relation basée sur l'amour, sur la confiance. Et que même si je suis en défaut, même si je ne suis pas tout à fait dans les clous, il m'aimera quand même. Il continuera de m'aimer parce que je resterai son fils et sa fille. Parce que je ne suis pas dans le mérite de son amour. Il m'aime, un point, c'est tout. Et je ne peux rien faire de plus pour qu'il m'aime plus. Je ne peux rien faire de moins pour qu'il m'aime moins. Parce qu'il m'aime. Et que l'amour de Dieu ne s'achète pas. L'amour de Dieu ne rentre pas dans des contrats. Et ainsi, je voudrais nous dire, mes amis, peut-être qu'il est bon de parfois un petit peu rentrer en nous-mêmes pour se dire, mais... qu'est-ce que j'attends de Dieu que Dieu ne m'a pas promis? Quel contrat est-ce que peut-être j'ai rédigé que Dieu n'a pas signé? Parce que forcément, on risque d'être déçu, mais de vivre notre relation avec lui dans cet amour, dans cette effusion de l'esprit qui nous amène à être dans la docilité, à être dans la foi qui fait que même si je dois avoir la mort, je sais qu'il me ressuscitera. Et je peux aborder cela avec une perspective d'espérance. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles. Ça veut dire que j'ai une espérance que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu est celui qui prend soin de moi. Je suis son fils, je suis sa fille. Et je voudrais vous dire, mes amis, vous êtes les enfants du Seigneur. Et quel père, quelle mère abandonne ses enfants? Je sais que ça existe, je sais. Mais normalement, on donne sa vie pour ses enfants, on donne tout pour ses enfants. Le Seigneur donne tout pour nous. Et j'aimerais terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Nous aimerions tellement être autrement que ce que nous sommes, parce que nous voyons en nous-mêmes tout ce qui ne semble pas correspondre à ce que nous voudrions être, ce que le monde voudrait que nous soyons, ce que nous pensons que tu voudrais que nous soyons. Et nous nous mettons tellement de pression, nous nous mettons tellement de fardeau sur les épaules que nous n'arrivons plus à avancer. Seigneur, je prie pour que ce matin, ce soit ton joug qui vienne sur nos épaules, parce qu'il est aisé, ton fardeau est léger. Ta parole, Seigneur, n'est pas une contrainte, elle est la vie. Et Seigneur, je prie pour qu'il y ait encore Pentecôte dans nos vies aujourd'hui et demain, et tous les jours. Une Pentecôte qui fait que l'Esprit de Dieu est en nous, il habite en nous, il agit en nous, il fait une œuvre de fécondation qui fait que nous pouvons grandir à chaque jour, à chaque minute, à chaque instant. Et même lorsque nous ne voyons rien qui se passe, tu es à l'œuvre, tu agis. Et Seigneur, merci pour le chemin parcouru et merci pour celui qui va encore être parcouru. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu viennes dans ta grâce permettre à tes enfants qui sont dans la souffrance, à tes enfants qui sont dans l'attente, de pouvoir être soulagés par ta paix, par ta grâce qui les accompagne, de ne pas être sous un joug autre que le tien. Seigneur, merci de venir visiter tes enfants pour que la culpabilité, pour que l'accusateur, pour que tout ce qui vient pour mettre une pression quelconque soit balayé, chassé au nom de Jésus, et que ce soit dans la paix, dans la grâce, que chacun d'entre nous vivions notre quotidien. Je te prie au nom de Jésus. Amen.